Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la veille de la fête de Shavuot. Depuis Pessah déjà, on se prépare pour la fête de Shavuot. Depuis le lendemain des premiers jours de Pessah, on compte jour après jour, pendant 49 jours, et voici, dans une semaine, on arrive à la fête de Shavuot. On sait que toutes les fêtes, elles ont une date qui est marquée dans la Torah. En tout cas, il y a une date. On sait que Rosh Hashanah, c'est le premier des mois de Tishri, et Yom Kippur, c'est le 10 des mois de Tishri. Sukkot, c'est le 15 du mois de Tishri, même pour le 8e jour de Sukkot, qu'il est marqué pas dans la Torah la date, mais il est marqué que c'est le 8e jour par rapport au premier jour, mais ça suffit de faire un calcul et voir et arriver à cette conclusion que ça arrive donc le 22 du mois de. Le 21 du mois de Tishri. Par contre, c'est le 22 du mois de Tishri. Pareil pour Pessah, la date est claire, c'est le 15 du mois de Nissan. La seule fête où il n'y a pas de date dans la Torah, il n'y a pas de date claire, c'est la fête de Shavuot, que la Torah la dépend pas d'une date, mais de 50e jour après. Alors, il y a des explications, des différentes explications, mais ce qu'on voit clairement, en tout cas, c'est qu'il dépend. La fête de Shavuot dépend de la fête de Pessah, c'est absolument le 50e jour. Après, à tel point qu'ils peuvent arriver parfois que la date ne soit pas la même, pas aujourd'hui qu'on a notre calendrier qui est basé sur les comptes, mais à l'époque de temple ou après, où il y avait des tribunaux où on a pu fixer les mois selon la lune qu'on a vue et pas selon les comptes. Alors à ce moment-là, on a pu imaginer que la fête de Shavuot tombe soit le 5, soit le 6, soit le 7 Sivan. Par contre, aujourd'hui, qu'on fixe selon les comptes, on fait un arrangement, et donc à ce moment-là, on a quelque part un compte moyen, un mois de 30, un mois de 29, sauf deux mois, que ça peut changer pour certaines raisons. En tout cas, ça tombe toujours le 6 Sivan. Quand Mashiach viendra, on va revenir à l'ancien compte. Ça veut dire qu'on va compter selon la lune, la lune réelle, l'apparition de la lune qui est toujours au début du mois. À ce moment-là, on pourra à nouveau retrouver la fête de Shavuot, que ce soit le 5, soit le 6, soit le 7. Mais aujourd'hui, ça tombe toujours le 6, parce que, comme on a dit, le mois de Nissan, il a toujours 30 jours, le mois d'hier, il a toujours 29 jours. Donc, ça fait qu'entre Pessah et Shavuot, il y a 49 jours, et Shavuot, c'est le 50e jour. Et donc, comme on a vu que Pessah, ou bien plutôt Shavuot, son identité, c'est qu'il est basé sur la fête de Pessah. Il vient absolument 50 jours après la fête de Pessah. Donc alors, c'est une fête exceptionnelle où il dépend de la fête de Pessah. Il y a des différentes explications, bien sûr, mais en tout cas, ça c'est clair que Pessah prépare. La fête de Pessah, c'est une fête à part, mais aussi c'est une fête qui prépare pour la fête de Shavuot. En tout cas, alors, il faut comprendre un petit peu ce que c'est la fête de Shavuot. C'est une notion de préparation. Et la préparation, les préparations commencent déjà, comme on a dit, 49 jours. Mais plus qu'on s'approche, on est plus dans la préparation. Et surtout quand on est Shabbat avant la fête, Donc la préparation est plus intense, est plus forte. Et à ce moment-là, il faut voir le rapport entre la fête de Shavuot et l'idée de Shabbat en général. Et ce Shabbat, qui s'appelle Shabbat Bamidbar, Bamidbar ça veut dire dans le désert, d'autres l'appellent Shabbat, en fait, donc c'est comme ça qu'on appelle le quatrième livre de la Torah, soit Bamidbar dans le désert, soit un nom plus général, le nombre. Et puisque dans cette paracha, dans ce livre, mais surtout dans cette paracha, on nombre le peuple d'Israël avec différentes manières, comme il est marqué dans notre paracha. D'ailleurs, dans notre paracha, il y a des différentes manières de compter. Il faut compter le peuple juif à partir de 20 ans. Ensuite, il faut compter, tribu par tribu, chaque tribu à part. Ensuite, il faut mettre trois tribus ensemble, qu'il y aura quatre groupes de trois tribus, avoir le compte général de chaque groupe de trois tribus, ce qu'on appelle les drapeaux. Chaque drapeau, il y avait quatre drapeaux. Et ensuite, il faudrait compter les Lévites, mais à partir d'un mois, pas comme les autres, à partir de 20 ans. Et ensuite, chez les Lévites même, il faudrait compter, mais cette fois-ci, entre 30 et 50, il faudrait compter les gens qu'on stocke, ils sont prêts à travailler, de travail dur. Mais là, par contre, par famille dans la tribu de Lévi, il y a trois familles. Et il y a des différents comptes, le premier né du peuple d'Israël, etc., etc. Il y a beaucoup de comptes dans notre paracha, des différents comptes. Alors, il faut voir aussi les rapports entre les notions de comptes et cette notion, donc, puisqu'on a dit qu'on est à la veille de Shavuot, et c'est des jours de préparation pour la fête de Shavuot. Alors, on va quand même commencer avec l'idée, ce que c'est Shavuot, la fête de Shavuot. Alors, dans la Torah, on appelle Shavuot la fête de Shavuot, mais on appelle aussi la fête des promesses, puisque on a donné des premiers de ces fruits, on a apporté à Jérusalem. Il y a des différents fruits, les sept fruits d'Israël, mais ensuite il y a d'autres choses qu'on apporte, on fait des prélèvements. Donc c'est quand même été une fête de prélèvements, des promesses. Mais ce qu'on retient aujourd'hui surtout, c'est la fête où la Torah a été donnée. Donc c'est la fête où la Torah a été donnée, et c'est vrai que ça c'est lié avec la fête des promesses, mais on va se baser aujourd'hui surtout sur cette notion de ce qu'on appelle la fête des dons de la Torah. Comme ça on dit dans notre prière, la fête des dons de la Torah. Et puisqu'on dit la fête des dons de la Torah, ça veut dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps, on considère que c'est quelque chose qui se répète. Et cette année, justement, il y a le don de la Torah à nouveau, et on se prépare au don de la Torah. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière et comprendre qu'est-ce que c'est la Torah et qu'est-ce que la Torah, elle a apporté dans le monde. Alors, bien sûr que la Torah, elle a apporté beaucoup dans le monde, mais ce qu'il faut voir, c'est pas seulement que la Torah, elle a apporté quelque chose, beaucoup de choses, énormément de choses, ou bien même on peut agrandir et dire comment la Torah elle est importante dans notre vie, mais on peut dire que tout a été porté par la Torah. Ça veut dire que grâce à la Torah, on a carrément un autre regard sur notre monde, que c'est pas que ça change quelques détails, beaucoup de détails, mais ça change tout. Parfois on voit que quelqu'un qui, lorsqu'il change le regard, alors tout change. Alors, avec la Torah, on a une autre vision du monde, et donc, c'est pas seulement que la Torah, elle se trouve quelque part dans un endroit, ou elle se trouve quelque part dans une période, mais la Torah, elle reprend toute notre vie, elle couvre toute notre vie, et donc, toute notre vie, dans tous les domaines, on le fait autrement grâce à la Torah. Alors, parmi les choses qui sont développées, c'est intéressant que la Torah ait été donnée Shabbat. C'est intéressant que la Torah ait été donnée Shabbat, puisque Shabbat, normalement, c'est pas le moment de faire de grandes manifestations. Surtout qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Et pourtant, certainement, lorsqu'on fait des grandes manifestations, on passe par des choses que normalement on ne devrait pas faire Shabbat. Ce n'est pas vraiment une question, parce qu'à la limite, on peut imaginer qu'il n'y avait pas quelque chose qui est interdit. Mais quand même, Shabbat, c'est un jour qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. On évite ici, et Shabbat, le jour de Shabbat, donc la Torah a été donnée. Donc on imagine qu'il y avait beaucoup de choses qui peut-être dérangent l'esprit de Shabbat. Et pourtant, la Torah a été donnée Shabbat. Et ça, c'est la vie de tout le monde. Parce qu'il y a des discussions à quelle date la Torah a été donnée. Est-ce que c'était le 6 Sivan ou c'était le 7 Sivan? Donc, c'est une grande discussion dans le Talmud. Et il y a, chacun, il explique ses opinions. Puisque dans la Torah, il n'est pas marqué clairement. Mais ça, on est d'accord tous que le Shabbat, que la Torah a été donnée Shabbat. Ça, c'est clair. Si on est d'accord que la Torah a été donnée Shabbat, ça veut dire que le lien entre Shabbat et la Torah, c'est un lien intime. Ça veut dire qu'on ne peut pas les séparer. Si on veut comprendre qu'est-ce que c'est la Torah, il faut voir qu'est-ce que c'est Shabbat. Alors, qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est un jour de repos, bien sûr. Mais comme il est marqué que Shabbat, c'est un jour... Oui, le mot repos, on va voir si ça, en français, ça colle avec l'idée. Qu'est-ce que c'est un repos? Un repos, bien, il y a un repos physique. Quelqu'un qui travaille toute la semaine, et là, il fait des siestes. Mais il y a un repos aussi intellectuel, un repos psychologique. Qu'est-ce que c'est un repos? Alors, il manquait parmi les choses qu'il manquait d'ailleurs sur le Shabbat, parce que là aussi, on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Dieu, il avait besoin de se reposer. Dieu, toutes les notions humaines n'existent pas chez Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il se reposait le septième jour dans le jour de Shabbat. Et parmi l'explication, okay, on connaît cette explication, que Dieu a créé le besoin de se reposer le jour de Shabbat. Mais il y a une autre explication, et là on revient plutôt à cette notion de repos psychologique. C'est que chacun sait que parfois on est perdu dans la nature. Quand on fait des choses qu'on a l'habitude de faire tous les jours, alors ça va. Mais d'un coup, quand on rajoute quelque chose, on demande à quelqu'un, fais ça, aussi ça, et aussi ça. Et d'un coup, on est perdu. Eh bien, ça dérange. Mais parfois, il y a des gens qui font beaucoup de choses dans leur vie. Et pourtant, ils le font correctement. Ils le font d'une façon reposée. Ça veut dire, très souvent, ça dépend, est-ce qu'on est bien organisé ou on est mal organisé. Si on est mal organisé, alors comme cette expression qui dit qu'on se noie dans un verre d'eau. Et si on est bien organisé, on peut même plonger dans une mer très compliquée et pourtant on y arrive. Ça dépend de la façon comment la personne il prend la chose si on est organisé. Donc alors dans tous les détails, on voit le poids. On voit vers où ça mène, on n'est pas perdu dans les différences, on n'est pas perdu dans les détails. À ce moment-là, on arrive. Par contre, quelqu'un qui voit dans les détails, il voit les détails, il ne voit pas vers où ça mène, alors à ce moment-là, il est perdu. Donc, l'idée d'organisation, c'est qu'on a beaucoup de choses, mais je m'organise à tel point que là, il vient après l'autre. Et donc, je m'organise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, mais les détails, ils se suivent. Donc, à ce moment-là, j'ai les détails, mais j'ai aussi le poids qui unit les détails. Selon ça, on peut dire que l'idée de repos psychologique, encore qu'on a dit tout à l'heure que la fatigue psychologique, c'est quand quelqu'un il voit beaucoup de choses, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec tous ces détails. Il est perdu dans tous ces détails. Par contre, quand quelqu'un qui a une vision plus globale, plus générale, il voit, certes, les détails, mais il voit le point qui unit tous les détails, il voit tous ces détails comme un point, comme une idée, comme un ensemble, à ce moment-là, il n'est pas perdu, il n'est pas perdu dans les détails, parce que ce n'est pas des détails. D'ailleurs, on se fait de beaucoup de détails. L'homme, le corps humain, est créé par beaucoup, énormément de détails, des millions de détails, mais puisqu'il y a un bon, une bonne organisation dans ces détails, donc on arrive à gérer. Ça aussi, c'est vrai pour toute chose. Est-ce que je suis organisé ou non? Qu'est-ce que ça veut dire l'organisation? C'est que j'ai quelque chose en ligne directive qui me guide. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, mais je vois aussi le poids, je vois aussi la ligne qui unit tout, et à ce moment-là, je ne suis pas perdu avec les détails. Voir cette idée, alors à ce moment-là, on peut comprendre que ça aussi, c'est une notion de Shabbat. Shabbat, c'est vrai qu'on se repose, en tout cas, on essaye de se reposer matériellement, mais ce n'est pas ça forcément l'idée de Shabbat. Shabbat, c'est plutôt un repos psychologique ou spirituel. Alors, par rapport à dans la Chassidoute, on amène cette image que pendant les 6 jours, Dieu a créé le monde, le 7e, il s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on donne l'image d'un homme, un homme qui crée quelque chose, il fait une peinture. Alors, lorsqu'il est penché dans la peinture, avant la peinture, il a une idée générale vers où il veut arriver. Qu'est-ce qu'il veut comme résultat? Et ensuite, il commence à faire des détails. Lorsqu'il est dans les détails, il est vraiment dans les détails. Et après, il prend un recul, il voit l'entour. Ou il voit le tout, il voit la photo d'une façon globale. Alors, lorsqu'il est dans les détails, alors il voit les détails, mais il ne voit pas le rapport entre les détails et le général. Mais lorsqu'il prend un recul, alors à ce moment-là, il voit d'un coup pas les détails, il voit comment tous ces détails font partie d'un ensemble. Alors c'est ça un petit peu les différences entre la semaine et Shabbat. La semaine est liée avec les détails. Et parfois on perd l'idée générale parce qu'il faut parfois se concentrer dans les détails. Et chaque jour, il a son but qui est différent que les autres. Si on ne va pas se baisser vers les détails, on ne va pas pouvoir. Mais ensuite, il faut reculer et voir les choses d'une façon plus globale. Il faut voir comment chaque détail fait partie des générales. À ce moment-là, je vois les détails comme un ensemble, comme une partie des générales. Donc, qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est un moment, mais Shabbat, c'est une idée qui nous montre, qui nous donne une idée, qui nous donne un regard sur l'ensemble. Alors, c'est vrai que dans notre vie, et on passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Shabbat, très souvent, on a un recul. Habituellement, on a l'habitude de s'asseoir avec la famille, de parler ce qu'on n'avait pas le temps de voir toute la semaine. Quelque part, de revoir la semaine. Ou bien beaucoup d'autres choses. Mais aussi, un petit peu, voir les choses d'une façon plus spirituelle. Et à ce moment-là, c'est exactement cette idée. Mettre recul d'une part, mais ça veut que ce recul nous donne cette menoucha, ça veut dire ce repos. Et donc alors, c'est pas forcément, c'est possible que je ne vais pas me reposer à Shabbat, mais il y a ce repos spirituel, ce repos psychologique que je regarde autrement les choses. Je suis dans un autre univers Shabbat, je me retire de ma vie personnelle et je regarde autrement. D'ailleurs, aujourd'hui, dans notre monde moderne, alors c'est très étrange aux yeux de certaines personnes qui voient que chez nous, chez les juifs pratiquants, on ne prend pas la voiture Shabbat, on n'allume pas la lumière Shabbat. Mais le pire, c'est qu'on ne regarde pas nos téléphones Shabbat pendant 24 heures. Si, par exemple, comme c'est Shavuot qui va durer 2 jours, pendant 48 heures, on ne va pas ouvrir nos téléphones, on ne va pas être au courant de ce qui se passe dans le monde. Et il y a parfois où ça arrive, même qu'on le fait 3 jours, comme c'est le jour de Pessah cette année, qu'on avait 3 jours qu'on n'a pas regardé nos téléphones, on était coupé du monde. Et ça, c'est une notion que les gens nous regardent bizarrement. Qu'est-ce que c'est? À tel point, les gens n'arrivent pas à lâcher leur téléphone pendant quelques minutes. Ils doivent regarder chaque quelques minutes qu'est-ce qui se passe, parce que sinon le monde va s'écrouler sans qu'ils soient au courant. et peut-être il peut donner un coup de main à droite et à gauche. Mais donc alors ça c'est notre habitude. Et là d'un coup arrive Shabbat, il n'y a plus rien, ni voiture, ni électricité, ni les journaux, ni en fait les journaux peut-être oui. Mais en tout cas on est pas les journaux en temps réel, ni les téléphones, ni la télévision. Donc on est en train de se décaler du monde, mais justement c'est ça l'idée de Shabbat. On décale du monde, on est en train de, toute la semaine, de récolter des informations. Mais on n'a pas le temps pour nous-mêmes, pour réfléchir nous-mêmes, on réfléchit grâce aux informations. C'est tout ce qui arrive autour de nous qui nous font réagir, mais nous-mêmes on ne réfléchit pas. L'idée de Shabbat, c'est plutôt une idée qu'on se concentre à nous-mêmes, on se concentre à la famille, on se concentre à la communauté, mais il y a des différentes manières. Mais en tout cas, c'est une idée de se concentrer. Et donc, c'est exactement cette idée de Shabbat. C'est pas forcément oui, mais quand même, c'est pas forcément l'idée de repos matériel, ce qu'il faut quand même. Mais c'est plutôt une idée de repos spirituel et psychologique. Donc, jusqu'à là, j'étais une machine qui reçoit des informations. Maintenant, je suis une machine, en fait, plus une machine, je suis un homme qui réfléchit, qui essaye de me concentrer. Donc, alors, ça, c'est en quelques mots les différences entre Shabbat et la semaine. Donc, alors, lorsqu'on dit que Dieu a créé le monde en 6 jours, mais il manquait quelque chose dans le monde, il manquait l'idée de repos. Alors parmi l'explication qu'on dit, c'est que justement le repos, c'est celui qui fait les différences de ce qu'on a fait toute la semaine. Toute la semaine, on était penché vers les détails. Shabbat, on revient vers le général, vers ce qui unit tous les détails. Alors, à ce moment-là, c'est ça le rapport. Donc, à ce moment-là, c'est ça l'idée de voir l'unité dans les différences. Parce que les différences, pourquoi il y a des différences? C'est parce qu'on ne voit pas l'unité. Mais lorsqu'on voit l'unité, d'un coup, on ne voit pas de différences. Alors, prenez des exemples. Là, tout à l'heure, je parlais du corps humain, mais une voiture. Une voiture, c'est une voiture, mais en même temps, c'est plusieurs morceaux de choses. Alors, ça dépend du regard. Je peux voir l'ensemble, mais je peux voir les détails. Et c'est ça un petit peu, pas seulement un petit peu, c'est ça un petit peu l'idée de la Torah. La Torah, elle, avec ce qu'elle rajoute, c'est vrai qu'elle rajoute des détails, mais ces détails, ça change tout le regard sur le monde. Elle donne cette vision générale du monde qui est carrément différente. Alors, à ce moment-là, tous les détails changent. C'est exactement, encore une fois, si je vois un détail, mais le détail, il est à part, ou bien un détail qui fait partie d'un ensemble, à ce moment-là, le détail lui-même, il change. Donc, alors, si on a notre vie qui est dirigée par la Torah, alors, c'est pas seulement qu'il y a la Torah nous dit ça c'est une bonne idée, ça aussi c'est une bonne idée. Mais dans certains domaines, la Torah n'a rien à nous dire. Au contraire, l'idée de la Torah, c'est donner un ordre, donner un repos, mettre un ordre dans notre vie et regarder autrement sur la vie. Et de là, on peut arriver à une autre idée. Mais avant d'arriver à cette idée, on peut dire d'une façon très rapide, c'est que notre parasha, on parle des chiffres. Il y a beaucoup de chiffres, comme on a dit tout à l'heure. Dieu, il veut qu'on compte le peuple juif. Alors, lorsqu'on parle des chiffres, alors, il y a un paradoxe. D'une part, les chiffres, il a une importance à part. Chaque détail a son importance. Mais en même temps, grâce aux chiffres, on arrive à faire l'unité. Que les détails font partie d'un ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais on va aller plus loin. Et il y a quelque chose d'intéressant, le Talmud nous raconte qu'il y avait un grand sage qui s'appelait Rabbi Yosef, d'ailleurs il est Dans plusieurs domaines, on trouve, cette semaine, j'ai entendu le rabbi qui explique encore une idée intéressante, comment c'est Rav Yosef. Il était quelqu'un d'exceptionnel, et donc sa vie était représentée la notion de la Torah plus que les autres. Donc c'est Rav Yosef, il a demandé un menu spécial pour Shavuot. Il a demandé à sa famille, à sa femme certainement, il a demandé de lui préparer en fait les repas de jour, de Shavuot, que ce soit à base d'un veau, mais un veau, pas n'importe quel, un veau de troisième dans la famille. Ça veut dire que c'est le troisième, je ne sais pas comment on dit, naissance dans la famille des veaux, de taureaux, de la vache. Il a expliqué pourquoi il veut le troisième, alors certainement que c'est mieux, je ne sais pas comment c'est mieux, mais comme ça on explique. Mais il a expliqué que le chiffre... Il a dit comme ça qu'il est tellement heureux qu'il a la Torah, parce que sans la Torah, on aurait eu encore un Yosef dans le marché. Donc ça veut dire que grâce à la Torah, ce n'est pas encore une personne, encore quelqu'un. Lui, Yosef, il est Yosef qui s'est élevé. C'est un homme élevé grâce à la Torah. Alors cette même phrase était commentée par le rabbi plusieurs fois et par de différentes manières. Mais parmi les manières, c'est que la Torah, elle était donnée, donc le Talmud nous dit que la Torah, elle a le chiffre de 3. 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre d'union. Comme ça, on explique. Parce que le chiffre 1, c'est pas l'union, mais parce qu'il n'y a personne d'autre. Le chiffre 1, ça veut dire que ce qu'on parle, on lui donne le chiffre 1, ça veut dire que c'est quelqu'un qui... à ce moment, il n'y a rien d'autre. Le chiffre 2 crée déjà les différences. Alors, mais le chiffre 3, c'est celui qui unit entre les différences. Peut-être la prochaine fois, on va un petit peu développer plus. Mais pour dire comme ça que tous les matins, on a l'habitude de lire un verset de Braïta qui nous dit que pour comprendre la Torah, il y a 13 règles pour comprendre la Torah. Parce que chacun il sait que quand on ouvre la Torah, on ne comprend rien. Si on ne va pas suivre les commentaires qu'eux-mêmes, ils ont suivi des règles comment il faut lire la Torah. Exactement comme si quelqu'un va acheter une nouvelle voiture, il doit avoir des règles. S'il ne connaît pas d'avance, il y a une nouvelle voiture avec de nouveaux règles. Et si lui, on ne l'a pas expliqué comment il faut suivre les règles, alors il va appuyer sur le bouton, mais il ne va rien comprendre. Là aussi, la Torah, elle était donnée de telle manière que sans les règles, on ne comprend pas. Et parfois, on peut comprendre, opposer à ce que la Torah veut dire. Donc, il y a 13 règles. Mais la dernière des règles, comme il est marqué là-bas, c'est que souvent, dans la Torah, il y a deux versets. Que lorsqu'on lit l'un, on a l'impression d'une chose. Lorsqu'on lit l'autre, on a l'impression de l'idée opposée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, la Torah nous dit une chose. Parfois, la Torah nous dit une autre chose. Alors, à ce moment-là, il y a un troisième verset qui, là, il fait le pont entre les deux. Ça veut dire qu'il nous explique que, oui, le premier verset, il a raison. Mais il parle dans ces catégories. Et le deuxième verset, il a raison parce qu'il parle dans ces catégories. Et c'est le troisième qui nous révèle. Et là aussi, on ne va pas développer peut-être la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça, c'est l'idée des trois qui ne met pas en opposition ce qu'on a été dit, seulement qu'il a élargi l'idée. Il dit que d'une part on a mis la barre très haut, d'une autre part on a mis la barre très bas, et pourtant il y a le lien entre les hauts et les bas, et ça c'est un petit peu l'idée de la Torah. Donc à partir de là, l'idée de la Torah c'est l'union, l'idée de la Torah c'est la paix. Parce que la paix, ça veut dire quoi? Pourquoi on ne vit pas en paix? Parce que l'autre, il me dérange. Parce que l'autre, il est opposé à moi. Mais si on a une vision plus globale qui nous montre qu'en vérité, on a des visions différentes, mais ça ne change rien. Parce que ce n'est pas qu'on est différent, parce qu'on voit beaucoup plus large. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de la Torah qu'on voit partout, une autre vision. Elle nous montre le monde avec d'autres lunettes. C'est pour ça qu'il est marqué que la Torah est venue pour faire la paix dans le monde. Donc ça, c'est encore un sujet qu'on va voir. Donc alors, c'est qu'on a parlé aujourd'hui que la Torah, elle est venue beaucoup plus tard que la création du monde. Dans la création du monde, on a trouvé un chaos. Et la Torah, elle a mené un ordre dans la pensée du monde. Regardez autrement, c'est ça, c'est pour ça que la Torah, elle était donnée Shabbat. Parce que cette notion de donner un ordre, une autre vision dans le monde qui est globale, tout, elle montre que comment il y a des différentes manières et comment on peut parfois cohabiter avec les différentes manières. Ça, c'est l'idée de la paix. Et ça, c'est l'idée de la psychologie. Et c'est pour ça que, avec la Torah, on va arriver à cette période, finalement, de paix, parce que la Torah, elle voit très, très large. Si on étudie la Torah, si on a lu le Talmud, on voit partout des discussions et des notes d'accord. Et ils ne sont pas d'accord, les sages. Là, il met la barre à l'extrême droite et l'autre, il met la barre à l'extrême gauche. Et finalement, on arrive à trouver le schéma entre les deux. Ce n'est pas qu'on annule l'extrême droite, en fait. Je ne parle pas de politique, je parle de l'idée. Et c'est pas qu'on élimine l'extrême gauche. Parfois, oui, dans certains domaines, il faut voir de quoi s'agit. Mais très souvent, en fait, ça, c'est la vision de la Torah, d'élargir le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'extrême droite, extrême gauche encore. Je parle pas de politique, je parle d'idées. Et ensuite, on arrive à lier entre les extrêmes. C'est ça l'idée de la paix. Et c'est ça l'idée aussi d'équilibre. Et c'est ça aussi l'idée de la menoucha. La menoucha, ça veut dire le repos psychologique. En tout cas, puisqu'on est quelques jours de la fête de Shavuot, qu'on se prépare bien pour la fête de Shavuot, en sachant que c'est vendredi prochain, il me semble que le 21 ou le 22 mai, donc c'est vendredi. Et parmi les choses qu'il y a beaucoup de choses, en fait, il n'y a pas beaucoup de devoirs, c'est fait que bien manger surtout, mais aussi il y a un devoir, mais ça c'est une habitude, d'aller à la synagogue, c'est très important d'écouter les 10 commandements, renseignez-vous plutôt, et on vous souhaite bonne préparation pour la fête de Shavuot, que notre ville soit équilibrée, joyeuse et remplie de paix, comme cet espoir de la Torah et comme cet espoir de ton messianique. Merci beaucoup de votre écoute et à la semaine prochaine.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.